Romains chapitre 13, versets 13 et 14. Marchons honnêtement, comme de jour, et non dans les débauches, et dans l'ivrognerie, dans la luxure, et dans les impudicités, dans les querelles, et dans l'envie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne flattez point la chair dans ses convoitises. En quelque lieu que tu me mènes, Seigneur, que je sois avec toi, sentier de bonheur ou de peine, qu'il soit toujours sentier de foi. Que je fasse ma nourriture de ta parole au Jésus-Christ et que sans plainte, sans murmure, je marche selon ton esprit. J'espère qu'à travers notre méditation aujourd'hui, on pourra vraiment saisir le sens profond, profond et véritable de ces paroles magnifiques de chant. Que nous pouvons être en danger de chanter sans véritablement ressentir la puissance. En quelque lieu que tu me mènes, Seigneur, que je sois avec toi. Quelque lieu que ça soit, si seulement je peux être avec toi. Être et rester avec toi, Seigneur Jésus. Et quoi d'autre? Sentier de bonheur ou de peine, qu'il soit toujours sentier de foi. Vous savez ce que c'est quand tout d'un coup, il y a l'argent qui commence à rentrer? Le danger demeure un danger. Lorsque nous sommes dans la peine, dans les peines, les afflictions, la persécution, avoir la foi, c'est une nécessité que nous ressentons plus aisément, mais sentir de bonheur. Seigneur, qu'il soit toujours sentier de foi. Des paroles profondes, profondes, qui appellent à notre sérieuse considération aujourd'hui. Que je fasse ma nourriture de ta parole, ô Jésus-Christ, et que sans plainte, sans murmure, je marche selon ton esprit. Selon ton esprit, pas mon esprit. Pas mes plaintes, pas mes murmures, mais que je marche selon ton esprit, que je fasse de ta parole ma nourriture, ma joie. Que mon sentier soit toujours un sentier de foi. Aujourd'hui, frères et sœurs, ce qu'on veut faire, c'est continuer, poursuivre la méditation que nous avions commencée sur le thème, le sujet revêtu de sa justice. C'est la deuxième partie de cette méditation. Et nous voulons faire un récapitulatif de ce que nous avions vu précédemment dans nos études précédentes. Pour ramener toutes ces choses à notre mémoire et repartir au point où nous avions laissé notre méditation à la dernière fois. Donc, si vous vous rappelez bien, nous avons vu que dans son amour, Dieu nous reçoit avec nos vêtements sales, nos vêtements sales de caractère, et tandis que nous lui présentons nos cœurs contrits, repentants et humiliés par le sentiment de nos péchés, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que nous avions vu? Que nous venons à lui comme cela? Il nous dit, comme il le disait à Josué dans la parabole prophétique de Zacharie, Zacharie chapitre 3, rappelez-vous, il nous dit, « Vois, j'enlève ton iniquité et je te revais d'habits magnifiques. » J'enlève ton iniquité et je te revais d'habits magnifiques. C'est sa réponse, c'est la réponse de Dieu au pécheur qui vient à lui repentant, sincère, contrit et désireux de trouver une échappatoire dans le cœur de Dieu. C'est ce que nous avions vu que nous tous, comme c'est écrit dans Ésaïe chapitre 64, nous tous, nous avons péché, il n'y en a pas un seul juste et toutes nos justices sont comme un vêtement souillé. Nous sommes tous comme une chose impure et nos justices sont comme un vêtement souillé. C'est ce que la parole nous dit. Et donc dans cette réalisation, nous avons trouvé que le sentiment croissant à l'intérieur du pécheur que tous ses mérites n'ont absolument aucune valeur, et plus encore que le caractère hybride est en abomination à Dieu, d'essayer d'avoir un peu de Christ et un peu de moi, ou comme c'était écrit, beaucoup de Christ et peu de moi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que du moi. Ce caractère, cette religion de rapiéçage, Dieu a en horreur ces choses, mais nous avions vu que, quoi qu'il ait en horreur ces choses, il a un cœur plein de tendresse et de compassion pour ceux qui ont un caractère hybride comme cela, et qui ont une relation, et qui ont, à cause de ce caractère rapiécé, ont une relation avec Dieu qui n'a aucune valeur, qui est, comme nous l'avions lu, absolument sans aucune valeur, parce qu'elle est tellement fragile à cause de cette religion de rapiéçage. Nous avions vu, parce que cela a à voir avec le thème d'être revêtu de la justice de Dieu. Pour nous revêtir de la justice de Dieu, il nous fallait et il nous faut réaliser que notre disposition naturelle est de nous revêtir prioritairement de notre propre justice et de venir rapiécer à notre justice la justice de Christ. Et l'esprit de prophétie appelle cela une religion de rapiéçage. Et ceux qui ont une religion de rapiéçage forment des caractères rapiécés, avec beaucoup de moi et un peu de Christ. Et comme nous l'avions lu, à la fin, il se trouve qu'il ne reste plus que du moi et qu'il n'y a plus du tout de Christ. Et donc, quand nous avons fait cette terrible réalisation de notre terriblement mauvaise disposition à ne pas prendre toute la justice de Christ, cela a fait tressaillir nos cœurs et a animé en nous, a éveillé en nous le même sentiment qu'avait Ésaïe, le prophète Ésaïe dans la vision d'Ésaïe chapitre 6, comme nous l'avions lu. Où après avoir vu la sainteté, la gloire, la pureté de Dieu sur son trône, Ésaïe s'exclamait « Malheur à moi, je suis perdu, parce que je suis un homme aux lèvres impures et les gens au milieu desquels je vis sont un peuple aux lèvres impures et j'ai vu le roi, l'Éternel des armées. Mais cette réalisation, quand elle est combinée à l'amour de Dieu qui vient nous revêtir d'habits magnifiques lorsque nous venons à lui avec le sentiment affreux de nos justices qui sont un vêtement souillé, des vêtements sales, dans cette combinaison de notre sentiment de culpabilité à l'amour miséricordieux du Père qui vient nous rencontrer pour pardonner notre péché et nous couvrir de sa justice par la justification, par la foi. Cela crée ce que nous avions vu dans Ésaïe chapitre 61 verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel parce qu'il m'a revêtu. Qu'est-ce que c'était? Il m'a revêtu des vêtements du salut et m'a couvert du manteau de la justice. Et donc ça, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu par laquelle il justifie le pécheur indigne, mais repentant. Et pour élargir cela, parce que c'est tout le thème de notre méditation en ce moment, c'est être revêtu de sa justice, de seulement sa justice. Et comme nous l'avions lu, cette activité d'être revêtu de la justice de Dieu, elle commence par la justification. Parce que nous ne pouvons pas attendre d'être parfaits pour être entièrement revêtus de sa justice. Nous avons besoin, et Dieu a ordonné que le pécheur puisse être pardonné et être couvert de la justice de Dieu, à travers laquelle Dieu nous adopte par la foi, non pas par les œuvres, mais par la foi, dans sa famille, comme un gage d'assurance qu'il est fidèle et qu'il est apte et capable à nous transformer pour que la justice qu'il nous confère ne soit plus simplement imputée comme une œuvre de miséricorde, mais nous soit transmise de manière concrète dans notre caractère à travers une activité de coopération. Et donc, cette œuvre que Jésus a opérée et qui est le fondement pour nous, à la fois de la justification et de la sanctification, elle est exprimée de manière très sommaire, mais merveilleusement profonde et puissante dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Et ce passage, vous pouvez le lire dans les autres Bibles. Bien sûr, généralement, il transmet, à part dans la Bible Second, le sens correct, mais je le lis ici dans la Bible Darby, où le sens est très proche du grec. Il est écrit « Celui qui n'a pas connu le péché, il, Dieu, l'a fait pécher pour nous afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. » Donc celui qui n'a point connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devinssions la justice de Dieu en lui. Donc il a porté nos péchés, voilà, il s'est revêtu de nos péchés et il a enduré le châtiment de la transgression de la loi de Dieu pour que nous, à travers cette une opération merveilleuse et mystérieuse, mais expliquée dans l'évangile de l'expiation, nous puissions nous revêtir de sa justice, parce que lui, il s'est revêtu de notre injustice. C'est l'expiation, c'est l'œuvre de réconciliation dans laquelle Jésus a été notre substitut. Il s'est revêtu de l'humanité pour que nous, nous puissions nous revêtir de la divinité, que nous puissions devenir justice de Dieu en lui, caché en lui, c'est-à-dire que nous nous revêtons de Christ. Ce n'est pas, je ne prends pas une partie séparée de lui pour la mettre sur moi, mais c'est moi qui viens me cacher en lui. Et si je suis caché en lui, qu'est-ce que je serai? Ne serais-je pas revêtu de lui? Parce que je suis en lui. Et vous vous souvenez ce qui est écrit dans Jean chapitre 15? Il disait « Demeurez en moi et moi en vous. » Demeurez en moi et moi en vous. Il nous transperce comme un ver qui est jeté dans l'océan. L'eau est dans le ver et le ver est dans l'eau. C'est la communion intime et sainte dans laquelle Dieu nous appelle. Mais comme nous allons le voir, c'est une communion qui requiert et qui fait et qui exige de notre part un renoncement constant. Constant. Le renoncement d'hier ne suppléera pas au renoncement nécessaire et exigé pour moi aujourd'hui. Donc, et j'aimerais le lire juste pour vous donner un ordre d'idée, avec des termes un tout petit peu plus modernes, le même passage. « Car celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous, nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. » Il l'a traité en pécheur, ça c'est dans la Bible Osterwald. Mais le vrai sens littéral, c'est « il l'a fait péché ». Il l'a pas simplement traité en pécheur, il l'a fait péché. Il était péché même. Est-ce qu'il pouvait se revêtir plus parfaitement de notre iniquité? Comme c'est écrit dans Ésaïe 53. L'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Il s'est chargé de notre iniquité, il s'est revêtu de notre iniquité. Et il dit, demeurez en moi. Lui, il vient sonder dans ce qui est à nous et il se l'accapare pour que nous, nous puissions nous cacher en lui et partager sa justice. Et comme c'est écrit dans, je crois que c'est 2 Pierre chapitre 1, pour devenir participant de la nature divine. C'est comme cela que cela arrive, c'est lorsque nous nous revêtons de la justice de Dieu. Comme c'est écrit, lorsque nous devenons justes de la justice de Dieu à travers cet échange, où lui, il a été fait péché. Lui qui n'a point connu le péché, il a été fait péché. Il n'a point connu le péché, il n'a point commis le péché, il n'a point connu le péché, il n'y avait point de fraude dans sa bouche, mais il a été fait péché et il a porté l'iniquité de nous tous. L'expiation. Ou comme le dit le mot anglais, the atonement. L'unification. L'unification, la réconciliation de l'homme et de Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est l'homme Jésus-Christ. Donc ces choses-là, ces informations nous sont données pour opérer en nous une transformation. Et la transformation, elle se produit directement dans notre cœur. Parce que si elle ne vient pas du cœur, elle ne peut pas être accomplie. Et maintenant, pour poursuivre cette pensée, nous allons dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, parce que c'est tout l'intérêt de notre méditation aujourd'hui. Nous voulons savoir quel est le tracé inspiré du processus pour être revêtu de sa justice. Être revêtu de sa justice. Pour pouvoir venir au banquet des noces de l'agneau et manger au banquet, être accepté au banquet de la vie éternelle. Parce que ici-bas, nous avons le banquet de la parole de Dieu, mais nous sommes appelés au banquet des noces dans le ciel. Mais pour être accepté, vous souviendrez de la parabole, pour être accepté au banquet des noces de l'agneau, au temps final, je ne parle pas ici du banquet de la parole de Dieu, je vous parle du banquet des noces final, dans la rédemption accomplie et réalisée, il nous faut être revêtus des habits de noces. Et donc, Romains chapitre 5, versets 17 à 19, je lis, il est écrit, « Car si par le péché d'un seul, la mort a régné par un seul homme, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par un seul, savoir par Jésus-Christ. » Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes, de même par une seule justice, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Rendus justes. Dans ce terme, il y a une connotation à deux. Il y a une connotation double. À savoir que le pécheur qui est repentant et dont le cœur est contrit, si je viens à Jésus avec le cœur repentant, en regrettant ma transgression de sa loi, eh bien, il fait pour moi ce qu'il a fait pour Ésaïe, pour Josué dans la parabole prophétique de Zacharie et pour l'enfant prodigue. L'enfant prodigue se précipitait vers le Père, et dans cette parabole, nous avons une description biblique du cœur de Dieu envers le pécheur. Il se dirigeait plutôt vers la maison du Père, il revenait vers la maison du Père qu'il avait quittée parce qu'il voulait dilapider ses biens, il voulait prendre plaisir à la vie, il voulait profiter de la vie tant qu'il pouvait, et après avoir épuisé ses biens, après s'être fait oublier par ses proches, ses amis, lorsqu'il n'avait plus tout l'argent qu'il avait au départ, il est reparti vers la maison du Père, et le Père, le voyant, a accouru vers lui, le voyant de loin, a couru vers lui, en direction de lui, et l'a pris dans ses bras. Et ça, Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a revêtu de son manteau. Il était encore souillé de ses péchés et il l'a revêtu de son manteau. C'est la justification. Et donc, nous lisons que par une seule justice, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. Et par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Et Romains, chapitre 3, verset 23. Car il n'y a point de distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi de Jésus. Ou comme c'est écrit dans la Bible Osterwald, qui a la foi en Jésus. Mais les deux sens sont corrects et nécessaires. Et donc, nous lisons ici, nous avons lu au sujet de l'abondance de la grâce de Dieu et le don de la justice. Et ce don de la justice dont il est question ici, c'est celui où Jésus s'est offert en sacrifice, afin que l'on puisse recevoir la justification qui donne la vie et que l'on puisse aussi être rendu juste. Et ici, nous lisons que pour être fait la justice de Dieu en lui, c'est une œuvre où Dieu est reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, je n'ai pas cette justice, mais Dieu, dans son œuvre du salut et de rédemption, est reconnu juste en accomplissant cette justification à travers la foi du croyant en Jésus. Ainsi, Dieu, par cette activité divine de la rédemption, est reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi de Jésus, comme c'est écrit dans Darby. Et c'est donc cette activité de l'amour et de la miséricorde de Dieu qui éveille cette expression dans le cœur de celui qui a la foi en Jésus et de Jésus. Cette expression qui est marquée dans Ésaïe 61:10, à laquelle je faisais référence, « Je me réjouirai en l'Éternel, car il m'a revêtu des vêtements du salut et m'a couvert du manteau de la justice. » C'est tout ce tracé qu'on a vu dans Romains ici qui éveille cette réalisation et cette expression du cœur comme nous l'avions lu la dernière fois. C'est que moi qui n'ai pas de justice, moi qui n'ai pour caractère, pour justice, que des vêtements sales, Dieu est reconnu comme juste et me justifie si j'ai la foi de Jésus pour croire que le Père accepte une personne si souillée. Et maintenant que nous avons établi ce fait, cette activité de la justification, nous voulons continuer et poser la question: revêtu et couvert à quel point? À quel point sommes-nous revêtus et couverts de la justice de Dieu? À quel point et dans quelle mesure? Parce que nous avons lu dans Romains chapitre 5, c'est ce que j'essayais de souligner, par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, plusieurs seront rendus justes. Donc, à quel point serons-nous rendus justes et dans quelle mesure? Est-ce simplement la mesure de Dieu qui nous couvre de sa justice, tandis que nous sommes encore non transformés dans notre caractère, ou s'agit-il d'un autre degré de transformation et de justification? Dans le sens basique du terme, c'est-à-dire que la justice nous est appropriée. Elle nous est appropriée par la foi, comme c'était le cas pour Abraham, il a cru et la justice lui a été imputée, ça lui a été imputé à justice. Mais y a-t-il un autre degré? Et pour cela, nous voulons aller dans Romains chapitre 3, Romains chapitre 3, versets 27 et 28 d'abord. Et donc après avoir dit ce que nous venons de lire, que Dieu fait paraître sa justice dans ce temps-ci afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus, l'apôtre Paul poursuit et dit, où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Donc il n'y a point de sujet de se glorifier parce que c'est une œuvre que Dieu a accomplie dans son amour et dont il nous fait profiter à travers notre coopération. Parce qu'il faut que celui qui croit ait la foi de Jésus, pour que cela puisse lui être imputé à justice. Il faut qu'il y ait cette activité dans le cœur du croyant. Mais, verset 28, nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et donc, à quel point et dans quelle mesure sommes-nous donc revêtus et couvert de la justice de Dieu. Verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Nullement. Nullement. Au contraire, nous établissons la loi. Nous établissons la loi. Donc cela veut dire que cette loi de la foi qui dit que celui qui a la foi en Jésus et de Jésus et qui vient à Dieu repentant et pardonné par Dieu et justifié par Dieu, cette loi de la foi, elle n'anéantit pas la loi, mais elle établit la loi. Elle établit la loi parce que elle pointe le doigt vers le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix qui justifie la loi en disant que la loi nécessitait et exigeait un tel sacrifice pour être satisfaite. Donc nous n'anéantissons pas la loi, mais nous établissons la loi. Donc la loi de Dieu est établie à travers cette activité de la justification par la foi. C'est un point très important parce que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a une atmosphère qui voudrait et qui veut que la loi soit amoindrie et que la foi soit exaltée par cette activité salvatrice de Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas du tout le cas. La loi n'est pas abaissée, la loi n'est pas annulée, la loi n'est pas abrogée. Nous établissons la loi par la loi de la foi. Elle n'est pas changée, pas transformée, pas abrégée, pas modifiée. Elle est établie par la loi de la foi. Ce qui veut dire et ce qui nous conduit vers la réalité de l'appel à être, comme c'est écrit, rendu juste. Je relis Romains chapitre 5 verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Mais vous devrez noter ici que l'homme ne naît pas pécheur, dans le sens que il n'a pas commis le péché dès qu'il naît, mais il naît avec une disposition au péché, une disposition à la désobéissance. Et c'est dans ce sens que, à travers la désobéissance d'Adam et Ève, plusieurs ont été rendus pécheurs, c'est-à-dire qu'ils ont transmis à leur postérité une disposition naturelle et inhérente en eux-mêmes à la désobéissance à l'autorité de Dieu. Sans parler de l'autorité à leurs parents. Et donc, dans la même logique, ceux qui seront rendus justes par l'obéissance d'un seul, à savoir Jésus-Christ, ils seront rendus justes, pas simplement parce que lui, il a obéi, et donc ils sont rendus justes, mais ils sont rendus justes à travers, et par la foi, à travers l'obéissance qu'il a lui-même pratiquée et opérée en lui-même dans sa vie sur la terre, dans notre chair de péché. Par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Ils ne seront pas rendus justes simplement en un clin d'œil par un bâton magique. Ils seront rendus justes par leur foi en Jésus et leur activité, leur coopération avec l'activité de salut dans laquelle Dieu, dans laquelle Jésus s'est lui-même engagé dans la chair. Et donc, maintenant que cela est établi et que nous avons bel et bien confirmé que la loi est établie et que la loi appelle encore à notre obéissance, bien que nous ayons été justifiés par l'amour, le merveilleux amour de Dieu, nous voulons maintenant nous attarder sur des détails de cette activité du revêtement de justice, de cette activité où nous nous revêtons de sa justice, de la justice de Dieu. Allons pour cela dans Romains chapitre 13 et nous allons nous tourner de nouveau vers notre lecture biblique en élargissant, en commençant par le verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. Et d'ailleurs, en commençant par le verset 8 jusqu'au verset 10, l'apôtre Paul parle ici, il dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Cela se rejoint directement à ce que nous étions en train de voir. Il est en train de dire, il disait plutôt dans cette même épître aux Romains, il disait, nous n'anéantissons pas la loi par la foi, nous établissons la loi. Et ici, il dit, vous devez vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Vous voyez, il est en train de dire, nous établissons la loi, et pour accomplir la loi dans notre vie, de manière pratique, il nous faut nous aimer les uns les autres. Mais est-ce qu'il dit simplement cela? Est-ce qu'il dit simplement cela? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien moderne, il y a une tendance à utiliser le résumé que Jésus a fait de la loi, de chacune des deux tables, de la loi de Dieu, et à dire que maintenant c'est le résumé qui s'applique, mais ce n'est pas la loi dans chacune de ses particularités. Maintenant, Jésus a aboli cela et il présente le résumé qui est aimer son prochain comme soi-même et aimer Dieu par-dessus tout. Mais vous verrez que l'apôtre, sous l'inspiration, il continue, il dit, je relis, « Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Il continue, « En effet, les commandements, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement, tout cela se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Il n'y a pas écrit l'amour est l'annulement de la loi. Il y a écrit l'amour est l'accomplissement de la loi. Et donc vous voyez qu'il vient de lire la deuxième table pratiquement en entier et dit tout cela se résume dans cette parole, il réitère le résumé et la déclaration de Jésus. Et maintenant ce que je voulais lire c'est le verset 11. Et vous devez faire cela, c'est-à-dire vous aimer les uns les autres comme il a lu, accomplir la loi, vu le temps où nous sommes. Car c'est ici l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, puisque le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Marchons honnêtement comme de jour, et non dans les débauches, et non dans l'ivrognerie, dans la luxure, et dans les impudicités, dans les querelles, et dans l'envie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne flattez point la chair dans ses convoitises. Est-ce que vous voyez ici le détail du revêtement de justice? Il nous dit la nuit est avancée, le jour approche. En effet, plus encore aujourd'hui, le jour approche. Le jour de l'imminent retour de Jésus-Christ approche. Et il dit « Marchons honnêtement comme de jour, comme de jour, comme des personnes qui croient que le jour approche, et non dans les débauches, non dans l'ivrognerie, non dans la luxure, non dans les impudicités, dans les querelles et dans l'envie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Et ne flattez point la chair dans ses convoitises, ne la flattez point. Ou comme c'est écrit dans la Bible King James, ne faites point de provision pour la chair. Ne préparez point la voie pour la chair. Ne faites point de provision pour la chair, pour faciliter les dispositions et le développement des désirs de la chair et l'assouvissement des désirs de la chair. Ne la flattez point dans ses convoitises. Parce qu'il dit, le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. Qu'est-ce que nous avions lu ? Il m'a revêtu des vêtements du salut. Et nous venons de conclure à travers une étude approfondie et attentive de la parole que il ne veut pas simplement nous revêtir dans la justification, mais il veut nous rendre justes de manière véritable et concrète et pratique à travers une coopération et une transformation vivante de nos cœurs. Et j'aimerais utiliser l'esprit de prophétie qui va jeter de la lumière du témoignage vif et tranchant vis-à-vis de ce sujet. Je lis dans le colporteur évangélique à la page 57 au paragraphe 2. Nul ne peut être un gagneur d'âme accompli avant d'avoir résolu pour lui-même la question de l'abandon à Dieu. Il nous faut nous revêtir de Christ chacun individuellement. Pour chacun de nous, il faut qu'il devienne sagesse, justice, sanctification et rédemption. Quand notre foi se saisit de Christ comme notre sauveur personnel, nous le présenterons aux autres sous un jour nouveau. Et lorsque les gens contempleront Christ tel qu'il est, ils ne discuteront pas de doctrine, ils courront à lui pour obtenir le pardon, la pureté et la vie éternelle. Donc qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il faut que nous résolvions ? Quelle est la résolution que nous devons avoir pour nous-mêmes ? L'abandon à Dieu. Nous abandonner à lui. Il nous faut nous revêtir de Christ chacun individuellement. Pour chacun de nous, il faut qu'il devienne sagesse, justice, sanctification et rédemption. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est dans cette mesure et à ce point que nous sommes appelés à nous revêtir de Jésus, à nous revêtir de sa justice. Il faut qu'il devienne pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et j'aimerais lire une autre citation, c'est dans le livre « Vous recevrez une puissance » à la page 54 au paragraphe 4. La douceur et la parure intérieure qui est d'un grand prix pour Dieu. La douceur, vous vous rappelez ce qu'on avait vu, l'ornement d'un esprit doux et paisible. Nous avions considéré attentivement notre profond besoin d'apprendre la grâce de la douceur pour recevoir la parole de Dieu, les réprimandes de Dieu, les exhortations, sans plainte et sans murmure. La douceur, c'est la parure intérieure qui est d'un grand prix pour Dieu. L'apôtre en parle comme étant plus excellente et de plus grande valeur que l'or, ou les perles, ou les atours coûteux. Tandis que la parure extérieure n'embellit que le corps mortel, l'ornement de la douceur par l'âme et connecte l'homme fini avec le Dieu infini. Ça, la douceur fait cela. Elle part l'âme et connecte l'homme fini avec le Dieu infini. Comme nous avions lu, vous vous souviendrez dans Jacques chapitre 1, verset 21, nous sommes appelés à recevoir avec douceur la parole qui peut sauver nos âmes. Avec douceur, nous recevons la parole, et quand nous recevons la parole avec douceur, cette parole qui peut sauver nos âmes, la douceur part l'âme et connecte l'homme fini avec le Dieu infini. Cela permet cela, ça cimente cette compréhension dans nos cœurs pour que nous réagissions correctement à l'amour de Dieu et à sa longanimité et à ses exhortations puissantes et tranchantes et perçantes de l'Esprit de Dieu à travers la parole, à travers la méditation et à travers les exhortations du prédicateur. La douceur, c'est là l'ornement choisi par Dieu. Celui qui a décoré les cieux d'orbes de lumière a promis par le même esprit qu'il donnerait aux humbles le salut pour parure. Et ça, c'est, elle a cité le psaume 149, verset 4. Et dans, littéralement, dans la Bible King James, c'est qu'il donnerait au doux le salut pour parure. Les anges du ciel inscriront comme les mieux parés ceux qui ont revêtu le Seigneur Jésus-Christ et qui marchent avec lui avec un esprit doux et humble. Qui sont ceux qui seront inscrits comme les mieux parés dans le ciel? Ceux qui ont revêtu le Seigneur Jésus-Christ, qui se sont revêtus de sa justice, oui, qui ont revêtu le Seigneur Jésus-Christ en considérant qu'il a été fait péché, en considérant qu'il nous appelle à demeurer en lui, à être caché en lui, comme c'est écrit dans Colossiens. Les anges du ciel inscriront comme les mieux parés ceux qui ont revêtu le Seigneur Jésus-Christ et qui marchent avec lui avec un esprit doux et humble. Et donc, nous faisons le lien maintenant entre l'activité où Dieu nous revêt de sa justice, à la fois à travers la justification et à travers la sanctification, et l'appel à nous revêtir d'un esprit doux et paisible. C'est une activité qui est la seule et même activité. Lorsque nous nous revêtons d'un esprit doux et paisible, de l'ornement, d'un esprit doux et paisible et humble, nous nous revêtons de sa justice. Et pour terminer, j'aimerais lire dans le livre « Levez les yeux vers le haut » à la page 288 au paragraphe 5. Si nous voulons triompher, nous devons utiliser les moyens mis à notre disposition. Nous devons nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Par la foi, nous devons nous envelopper de la justice de Christ et ne placer aucune confiance dans nos propres mérites. Beaucoup cherchent à se présenter au banquet des noces de l'agneau couverts de leurs vêtements ordinaires. Ils négligent la robe tissée sur les métiers du ciel, préparée pour tous à un prix infini et offerte gratuitement aux invités. Nous devons porter la livrée céleste. Nous devons Nous devons être vêtus de la justice de Christ et aller au combat à ses frais et sous sa bannière ensanglantée. Sinon, nous ne lui appartenons pas. Voilà, par la foi, nous devons nous envelopper de la justice de Christ et ne placer aucune confiance dans nos propres mérites. C'est l'appel pour nous revêtir de sa justice, nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. L'appel pratique, c'est que par la foi, nous devons nous envelopper, nous couvrir de la justice de Christ et ne placer aucune confiance dans nos propres mérites. Ça fait partie des conseils pratiques et concrets pour être revêtu de sa justice. Comme c'est l'appel pour se présenter au banquet des noces de l'agneau. Nous ne devons pas venir à ce banquet avec nos vêtements ordinaires, nos vêtements sales, nos justices qui sont comme un vêtement souillé, mais nous devons nous envelopper de la justice de Christ et ne placer aucune confiance dans nos propres mérites. C'est ça, parce que si je mets ma confiance dans mes propres mérites, c'est un caractère rapiécé que j'aurai. À la fois mes mérites et les mérites de Jésus. Mais lui veut m'appeler et m'invite à venir à lui en ne mettant ma confiance que dans ses seuls mérites. C'est ça. Concrètement, c'est cela dont il est question lorsque Dieu nous appelle à nous revêtir de Jésus-Christ. C'est que je ne laisse plus apparaître qui je suis, mais que je laisse apparaître qui Jésus est. Et il préservera mon individualité si je préserve mon intégrité. Et lorsque, frères et sœurs, lorsque nous retrouverons et nous retrouvons confrontés à des situations dans lesquelles nous sommes tentés de laisser paraître qui nous sommes, et de céder à la tentation en nous laissant aller au plaisir de la chair, en flattant la chair dans ses convoitises, à chaque fois que ces choses se présentent à nous, ce que le Seigneur essaie de nous communiquer ici, à travers ce message, c'est de manière concrète et tangible à ces moments-là qui viennent de manière répétée, car nous sommes sans cesse sous l'influence de la tentation. À ces moments-là, c'est à ces moments-là qu'il nous faut nous revêtir de Jésus-Christ et ne point flatter la chair, ne point subvenir aux besoins de la chair, ne point faire de provision pour la chair. Mais réfléchir et penser à ce que Jésus est pour moi. Quelle est la vision que j'ai de lui quand je regarde à la croix? Alors qu'il souffre le calvaire pour moi? Alors qu'il m'émeut à l'intérieur de mon cœur, il fait naître des sentiments de pitié, des sentiments d'amour, lorsque ces choses-là nous reviennent à l'esprit, ou lorsque ces choses-là ne nous reviennent pas à l'esprit, il nous faut exercer notre mémoire et prier, supplier Dieu, invoquer le Seigneur, pour qu'il fasse apparaître ces choses et que, à la vue de ces choses, nous refusions la tentation, que nous ne cédions pas à la tentation, mais que nous refusions, que nous résistions à la tentation. Et lorsque nous faisons cela, nous serons accueillis dans une communion intime avec le Seigneur. Je suis en train ici de faire un résumé très très concis de toutes les déclarations de l'esprit de prophétie qui volent à travers mon cerveau, parce qu'on ne peut pas tout lire à un moment donné, et ce que je présente, c'est ce que la parole de Dieu nous donne. Et la parole de Dieu nous propose. Et pour conclure, j'aimerais qu'on se tourne vers Éphésiens, chapitre 4, verset 22. L'apôtre dit, si vous avez appris à connaître Christ comme il faut, vous avez appris, verset 22, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Les convoitises trompeuses vont sans cesse corrompre ce vieil homme. Il est déjà corrompu, mais il va se corrompre encore plus par ces convoitises trompeuses. Ce sont des convoitises et elles sont trompeuses et ce sont les convoitises de la chair que nous sommes appelés à ne pas flatter. Et auquel nous sommes appelés à ne pas subvenir à ses besoins, à ses appels, à ses cris de la chair. Vous avez appris à vous dépouiller de votre conduite précédente du vieil homme et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement. Renouvelés, constamment renouvelés. Et comment est-ce que nous sommes renouvelés? Parce que nous lisons dans la parole. Nous ne pouvons pas être renouvelés autrement. Si je veux être renouvelé, si je ressens que je suis en train d'être influencé par le monde, il faut que sans cesse je sois renouvelé dans l'esprit de mon entendement, verset 24, et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Quel est ce nouvel homme ? Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. » Quoi ? Nous sommes son ouvrage créé où ? En Jésus-Christ. Donc Dieu a créé un nouvel homme et ce nouvel homme, il ne se trouve que en Jésus-Christ. Et donc si je veux être un nouvel homme, si je veux marcher selon l'Esprit, il faut que je me cache en Jésus, que je demeure en lui, que je me revête du Seigneur Jésus-Christ, qui est créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. La vérité est sainte, mais il faut que nous marchions dans la justice et dans la sainteté de la vérité. Il y a des personnes qui... Et notre disposition naturelle, c'est de maintenir la vérité dans l'injustice. Et le monde est rempli de personnes qui professent la vérité, mais qui maintiennent la vérité dans l'injustice par leur propre conduite, leur comportement, leur vie, leur pratique, leur caractère. Non, nous sommes appelés à nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ, du nouvel homme qui est créé à l'image de Dieu, en Jésus-Christ, comme nous l'avons lu, dans la justice et la sainteté de la vérité. C'est tout cela à la fois. Jésus, il faut qu'il devienne pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Pas simplement sagesse et justice et rédemption, sagesse et justice et sanctification et rédemption. Il faut prendre le tout ou on ne prend rien du tout, comme nous l'avons lu juste avant. Sinon, nous ne lui appartenons pas. Si nous ne faisons pas tout ce qui est tracé dans la Bible et l'esprit de prophétie, nous ne lui appartenons pas. Il faut suivre exactement la voie de Dieu. Exactement. Pas choisir ce qui me plaît. Je suis exactement, je reçois la parole avec douceur. Je me revêts de l'ornement d'un esprit doux et paisible. Je me revêts de sa justice. Je me cache en Jésus. Toutes ces choses-là sont liées les unes aux autres et nous donnent le message complet de l'appel de l'évangile. De l'appel de l'heure du jugement dans laquelle nous vivons aujourd'hui même. Et les détails, ils grandissent au verset 25. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Qu'est-ce que ça veut dire ? si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est un langage très très particulier ici. Vous pourriez être amené à penser que si vous vous êtes mis en colère, vous avez déjà péché. L'apôtre, il dit, si vous vous mettez en colère, si vous ressentez l'impulsion monter à l'intérieur de vous, ne péchez point. Ne flattez point la chair dans ses convoitises, faites-la mourir. Faites-la mourir. Crucifiez-la à chaque fois que la chair se place devant vous pour avoir des ambitions mondaines, des plaisirs mondains. Vous prévoyez d'acheter ceci et cela et ceci et cela et de négliger les autres appels de l'Esprit de Dieu qui vous appelle à sacrifier pour la cause de Dieu. À chaque fois que ces choses se présentent, qu'est-ce que vous faites? Ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, sur votre passion, sur votre désir, sur votre ambition, que le soleil ne se couche point sur cela. Faites-le mourir. Que le soleil se couche sur le nouvel homme. Jamais, jamais ne vous endormez à la fin de la journée en ayant laissé ces choses sous le tapis. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Ne péchez point et ne donnez point accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille plutôt de ses mains à quelque chose de bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais que vos paroles soient propres à édifier utilement et qu'elle fasse du bien à ceux qui les entendent. Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute médisance soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Voilà, frères et sœurs. Nous avons reçu une lourde leçon pour nous revêtir de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et Dieu voulant, nous allons poursuivre cette méditation pour ne pas laisser cette méditation sans une propre et juste conclusion, mais que nous puissions continuer dans cette réalisation de l'appel de Dieu saint et élevé à une sanctification complète et sans rien qui y manque. Donc voilà, puisse notre esprit être vivifié par ces choses, notre esprit être renouvelé dans notre entendement, et puisse le Saint-Esprit nous rappeler ces choses, car nous allons en avoir besoin. C'est ma prière, que l'on puisse coopérer pour être revêtu de la justice de Dieu. Amen.